savon. Chaque jour, Hervé Tiss, physico-chimiste à l'INRA, dans le laboratoire de chimie du Collège de France, dialogue avec un grand cuisinier à l'heure du déjeuner.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc lundi, en présence de Pierre Gagnaire. Pierre Gagnaire, bonjour.
Bonjour, Hervé.
Donc Pierre Gagnaire est le cuisinier, puisqu'il veut dire cuisinier, il ne veut pas dire chef, hein, le cuisinier du restaurant Pierre Gagnaire à Paris, Sketch à Londres. Alors, cette semaine, les garnitures. On a eu les entrées, viandes et poissons. Bah, il faut évidemment les accompagner. Alors, garniture, on est en plein été. Il y a des haricots verts, il y a de beaux haricots verts. Alors, Pierre, je te propose la question des couleurs vues par le haricot vert. Alors, comme d'habitude, une recette qui ensuite donne lieu à nous conduit à examiner des tours de main, des proverbes. Troisième chapitre, on aura la science et la technique, la technologie de la cuisson du haricot vert, et puis enfin l'art du haricot vert. Alors, Pierre, cette fois-ci, je t'ai pris un livre un peu inconnu qui s'appelle Pour bien manger, entre parenthèses, guide de la bonne cuisinière, édition Le Petit Parisien. On est à Paris. C'est un livre de 1910, donc c'était des années où on mangeait bien effectivement. Et alors page 215, voilà ce qu'ils disent. Les légumes verts, haricots en particulier, doivent toujours être mis à cuire dans l'eau bouillante salée. Quelques-uns, comme les haricots verts, perdent leur couleur si l'on couvre la casserole. Ils doivent toujours être cuits à casserole découverte. Enfin, les eaux de puits et de source, trop calcaires, ne valent rien pour la cuisson des légumes qu'elles durcissent. Les meilleures eaux sont les eaux de pluie filtrées et les eaux de rivière. On reconnaît qu'une eau est chargée en calcium quand elle ne dissout pas bien le savon. C'est tout, hein. Il donne pas d'autres conseils, hein. Avec ça, débrouillez-vous, faites-vous haricots verts.
C'est quand même vraiment intéressant, hein, quand même. Hein.
Ouais, c'est intéressant. Mais tu fais quoi? Comment les haricots verts? Par exemple, les légumes, tu les cuis comment? Parce que là, il nous dit pas comment faire. Hein. Pour l'instant, je sais pas. Hein.
Eau bouillante, salée, immergée, voilà. Et surtout après, retirée et mis dans l'eau glacée.
Allez, couvercle ou pas couvercle?
Ben moi, je mets pas de couvercle, mais enfin, visiblement, d'après toi, tes recherches, le couvercle n'a aucune importance.
On y arrivera.
Aucune incidence.
et cuit combien de temps?
Alors. La théorie. Parlons de la France, parce que quand on va dans les pays comme l'Australie, par exemple, les pays anglo-saxons en général, ils cuisent très très peu les légumes, ils privilégient réellement la couleur, et souvent leurs légumes sont, veuillez m'excuser, un peu imbouffables, parce que hyper craquants, hyper durs. Bon, en France, on cuit les légumes. Alors il y a eu l'invention de ce mot. Qui a fait fureur dans les années 70, al dente. Donc, il faut que le haricot vert soit légèrement, pas croquant, mais une petite accroche en bouche. Mais je connais des gens qui ne supportent pas ça, qui veulent des légumes bien cuits. L'intérêt de cuire le légume de façon juste, sans tomber dans la mode anglo-saxonne, c'est d'avoir, quand le légume est cuit juste, il garde quand même sa couleur et il garde ce côté frais. S'il est trop cuit, on vire au jaune, hein. Tu le sais bien. Ouais.
Mais à Sketch à Londres, tu cuis les légumes comme à Paris ou pas?
J'essaye les cuire comme à Paris. Mais compte tenu que j'ai effectivement en cuisine des gens des Anglais, mais surtout des Australiens, des Sud-Africains, ils cuisent pas les légumes. Il n'y a pas moyen d'en faire cuire les légumes.
et la clientèle les veut comment? Parce que dans le fond, c'est un peu le paradoxe de l'art culinaire. Je n'aime pas le riz au lait. Je vais chez un artiste culinaire, et puis tout d'un coup, il me sert un riz au lait, et j'aime ça. C'est quand même bizarre, non?
Ah oui, ça c'est l'âme. Ça arrive parfois avec des légumes, des endives, du céleri. Ils disent, je mange pas de ça, habituellement je mange pas ça, chez vous je le mange. Pourquoi? Parce qu'on détourne le produit, on arrive à en faire autre chose, et ça, on mange plus du riz. On mange plus d'endives, on mange autre chose. Ce qui d'ailleurs a été l'objet des grandes critiques il y a quelques années, en disant, bon, c'est pas ce qu'on mange, c'est n'importe quoi, c'est la mort de la cuisine française. Bon, enfin bon, je connais ta théorie que t'as évoquée souvent. Qu'est-ce que ça veut dire, le goût des produits? On n'a jamais mangé un poulet avec les pubs, avec les viscères.
Voilà. Oui, donc le cuisinier a le droit de cuisiner comme il veut cuisiner.
Absolument.
Voilà. Ouais. De toute façon, cuisiner, c'est justement pas laisser le produit dans l'état. Ouais. On est prêt pour regarder l'histoire du haricot vert, en quelque sorte. Chapitre 2 de notre traité culinaire et savant, consacré aujourd'hui lundi aux haricots verts et à la question des couleurs. Bon, alors, on se restreint, Pierre, aux couleurs, aux légumes verts, hein, parce que sinon, il y a les rouges, il y a les bleus, il y a les jaunes, etc. Alors, les légumes verts, cette histoire de la couleur est un... traîne dans tous les livres de cuisine. Ce qui est intéressant dans la recette qu'on a lue, c'est que il y avait la question de la couleur. Alors, c'est un fait que si on cuit très longtemps les légumes verts, ils virent jaune, brun, olive. Enfin, d'ailleurs, les olives vertes peuvent aussi virer au brun olive. Enfin, oui. Bien, mais les brocolis peuvent avoir cette couleur. Donc, souvent. Il y a cette question de conserver cette couleur bien verte des légumes. Alors, il y avait même dans le temps des ce qu'on appelait des bassines à reverdir. Tu as utilisé ça?
Donc, non,
alors, bassines à reverdir, c'était une bassine en cuivre dans laquelle on faisait cuire les légumes. Et on disait que le cuivre conservait bien leur couleur verte, hein, vert un peu fluo d'ailleurs. Hein. Alors, il y a plein de choses. Le bicarbonate a été beaucoup utilisé pour cuire les légumes bien verts. Alors aussi, j'ai trouvé la lessive de cendre. Alors, lessive de cendre, ça c'est opération alchimique. Hein. C'est-à-dire, on prend les cendres de bois, hein, on fait un feu de cheminée, on prend les cendres, on les met dans un grand récipient avec de l'eau, on filtre, on récupère l'eau, et cette eau est extrêmement basique, c'est-à-dire le contraire d'acide, et avec ça, on cuisait les légumes. Alors là, ils étaient verts, mais ils avaient un petit goût qui était le goût de bicarbonate, ou un goût de savon. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre encore? Ah oui, alors les dictons relatifs au couvercle. Alors ça, on me dit dans les livres de cuisine, jamais de couvercle, parce que si vous mettiez un couvercle, alors j'essaie de reprendre le raisonnement, les acides du haricot resterait piégé dans la casserole, et à ce moment-là, il ferait brunir. Oui, parce que c'est vrai que si tu mets du vinaigre dans l'eau de cuisson des haricots verts, ils brunissent.
Oui.
Bon, et le propos, en gros, c'est de tenir de fixer la chlorophylle. Hein, ça, c'est le maître mot, fixer la chlorophylle. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour un chimiste, ça veut rien dire. C'est ça qui est étonnant, parce que on nous dit fixer la chlorophylle. En chimie, on sait pas ce que ça veut dire. Donc, à mon avis, il faut y regarder de plus près. Donc, je te propose de passer au chapitre 3, qui sera un peu plus long que d'habitude. Chapitre 3 de notre émission consacrée aux haricots verts avec Pierre Gagnère. Alors Pierre, moi je comprends que le haricot, c'est vert parce que dedans, il y a ce qu'on appelle les chloroplastes. Et les chloroplastes contiennent des molécules de chlorophylle. Alors les chlorophylles, pour simplifier, il faut imaginer des molécules qui sont comme des petites plaquettes avec une queue. Et au centre de la plaquette, il y a un atome de magnésium. Donc cette molécule de chlorophylle avec sa queue et son magnésium, elle donne une couleur bien verte.
Oui.
Ça c'est vrai. Maintenant... si je cuis trop longtemps, le magnésium peut quitter la chlorophylle et être remplacé par de l'hydrogène qui traîne dans l'eau de cuisson. Et à ce moment-là, la plaquette devient ce qu'on appelle la phéophytine. Et ça, c'est marron. Donc, c'est vrai que si on cuit longtemps des haricots verts, ils deviennent jaunes, enfin jaunes, marrons, plus ou moins. Alors, la bassine à reverdir des anciens. Il est vrai que si on cuit dans du cuivre... si la bassine n'est pas très propre, il y a du cuivre de la bassine qui vient remplacer le magnésium au centre de la chlorophylle, et à ce moment-là, ça devient plus vert que vert. Ça devient vert un peu fluo. Donc ça, c'est exact. Alors, est-il exact l'acidité? Alors l'acidité, si je mets de l'hydrogène, si je mets un acide dans mon eau de cuisson, il y aura des ions hydrogène qui vont remplacer le magnésium, et alors là, ça brunit tout de suite. Donc ça, c'est à proscrire, ça va très mal. L'acidité fait des haricots plus craquants, mais aussi plus bruns. Donc si on les veut verts, c'est loupé. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Ah ben, on pourrait, dans le temps, il y avait des gens qui s'étaient servis du fait que le cuivre faisant des haricots bien verts, ils mettaient du sulfate de cuivre. C'était interdit en 1900. Alors, des industriels, depuis, se sont demandé si le zinc ne pourrait pas faire le même effet. Alors, il y a un procédé breveté qui s'appelle le very green, où on met des sels de zinc pour conserver les haricots bien verts. Bon, donc, tu vois, la question du haricot vert, c'est pas tellement de fixer la chlorophylle, c'est plutôt de fixer le magnésium qui est au centre de la chlorophylle. Donc, il va falloir dardard changer les enseignements culinaires. On ne fixe pas la chlorophylle. La chlorophylle, elle est, de toute façon, elle est dans son haricot. Oui. Elle va très bien. Mais en revanche, fixer le magnésium, ça a l'air d'être une perspective.
Mais quand même, couvercle ou pas couvercle?
Ah, alors couvercle ou pas couvercle? Moi, j'ai pas à donner de théorie. Il y a que la pratique qui compte, en fait. Alors la pratique, ben on l'a encore testée à l'école supérieure de cuisine française la semaine dernière. On a sur des brocolis, on a fait cuire des brocolis avec un couvercle pour savoir si l'eau de condensation était acide, puisqu'on me dit que c'était acide et que ça va faire brunir. L'eau de condensation n'était pas acide. Bon. Alors en plus, depuis 2 ans maintenant, dans les lycées hôteliers, on fait l'expérience, c'est-à-dire on cuit des haricots verts dans 2 casseroles. Les mêmes haricots verts dans 2 casseroles, la même eau, enfin la même quantité d'eau, la même eau, la même quantité de sel, un couvercle sur l'une, pas de couvercle sur l'autre. Et on regarde, avec des tests triangulaires, c'est-à-dire qu'on met dans 3 assiettes, 2 lots de haricots verts d'une des casseroles et un troisième de l'autre casserole. Et puis on tend ces 3 assiettes à tout le monde et on dit est-ce que vous pouvez me dire quels sont les 2 lots qui viennent de la même casserole ? Et personne n'est capable.
Ah oui, donc c'est dur.
Alors, que conclure, en tout cas aujourd'hui...
Mais avec un couvert, c'est différent, parce que le couvert, j'ai l'impression qu'il ramollit lorsqu'on cuit couvert. Il me semble qu'il ramollit.
Bah pourtant, dans les 2 cas, ils sont à 100 degrés, puisqu'ils sont dans l'eau.
Oui.
Alors, couvercle ou pas couvercle, là, on n'a pas vu de différence. Oui. Alors, je ne sais pas quoi m'en penser. Pour l'instant, je dis couvercle, change pas. Alors, rafraîchir les haricots verts, en revanche, ça a l'air d'être important, parce que si... On cuit trop longtemps les haricots verts, ils vont brunir. Alors si on cuit les haricots verts et qu'on stoppe leur cuisson en les mettant dans de l'eau glacée, là évidemment on raccourcit la cuisson, donc on évite le brunissement.
Oui.
Alors est-ce que c'est ça que vous faites en cuisine ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais alors après ils sont froids, donc il faut les réchauffer.
Bah après oui, il faut les réchauffer de façon subtile. Et ça on sait pas toujours faire.
Et on les réchauffe comment en pratique ?
Bah, le mieux c'est presque de remettre un tout petit peu, toute petite goutte d'eau, et puis peut-être les passer un petit peu au four à vapeur, si on en a un, ou alors les mettre tempérés comme ça sur le pont du fourneau avec un petit noix de beurre, ou à les chauffer comme ça très rapidement. Non, mais l'idée, c'est pas de remettre de l'eau, parce que si on met de l'eau dedans, le haricot vert va se regorger dans un liquide qui n'est pas le sien. Donc, c'est quelques gouttes d'eau, et puis remettre en température, sans qu'il soit trop chaud. Un légume vert, c'est pas la peine de le manger brûlant. C'est pas la peine.
Bon.
Moi, j'aime bien le haricot vert, avec un beurre fondu. Plutôt qu'un beurre, on va pas prendre le beurre, on va pas le prendre à la poêle, les haricots verts. On va plutôt mettre dans une casserole un peu épaisse, on va verser un beurre fondu, et puis doucement, une casserole déjà chaude, et on ramène tranquillement les haricots verts en température. Déjà, ce qui est important, c'est le sortir du froid un peu avant. Comme ça qu'il est temps de reprendre la température de la cuisine. Et là, on a un haricot vert qui est parfait.
Bon, alors maintenant que nous savons faire des haricots verts bien verts, sans bicarbonate, sans sel de cuivre, sans bassine à reverdir, sans lessive de cendre, alors là, ça c'est affreux, on peut pouvoir les manger. Chapitre 4 de notre émission consacrée aux haricots verts en compagnie de Pierre Gagnère. Alors Pierre, la question des couleurs est une chose importante, je pense, en cuisine.
Ah ben c'est très important parce que le visuel est important. La composition va traduire le goût. Un haricot vert bien vert, bien s'il est bien cuit, il va pas s'écraser, il va rester un peu vivant et ça peut être absolument magnifique quoi. Donc le côté magnifique c'est d'abord dire ça me fait envie, c'est appétissant.
Ouais.
Et l'appétissant passe aussi par les yeux. Hein.
C'est quand même paradoxal parce que le vert est une couleur ambiguë. Au Moyen-Âge, c'était la couleur de l'espoir, mais surtout quand c'était une couleur éclatante, puisqu'on faisait des couleurs éclatantes pour louer Dieu, enfin pour rapprocher Dieu du monde humain. Maintenant, il y a aussi le fait qu'on a fait l'expérience de faire manger des gens dans une pièce où tout était vert, les assiettes, les nappes, les couverts, le sol, le plafond, tout était vert, et les gens n'ont pas pu manger. Donc la couleur verte en particulier a pas l'air d'être si appétissante que ça. Or tu me dis, les haricots verts, eux, il faut qu'ils soient verts parce que sinon c'est pas appétissant.
Oui, mais le vert. Là, tu parles de vert. Je dirais artificiel. Le vert des haricots verts, c'est un vrai vert. C'est un vert naturel. Hier, j'étais sur un marché à Paris. Il y avait des étages d'haricots verts bien rangés. C'était magnifique, quoi. C'est très très appétissant.
Mais alors, par exemple, dans le temps, même aujourd'hui, les cuisiniers font du verre d'épinard, c'est-à-dire qu'il y a une opération très très chimique d'ailleurs, qui consiste à broyer des épinards. Alors, si je me souviens bien, à mettre le jus d'épinard dans une casserole avec un petit peu d'eau, à faire chauffer doucement pour qu'il y ait une espèce d'écume qui monte, on récupère l'écume et on s'en sert pour colorer les mayonnaises.
Absolument. Tout à fait.
Mais ça fait un verre qui n'est pas très naturel, ça.
Ah ben
surtout dans une mayonnaise qui est blanc jaune plus de vert.
C'est complètement naturel puisque c'est un produit de la terre. C'est pas un produit chimique, on a mis, c'est pas un tube, c'est pas une pipette. C'est un vrai jus d'épinard.
Et est-ce que tu imagines par exemple de colorer des haricots verts avec du verre d'épinard?
Pourquoi pas?
Et est-ce que ça aura un intérêt culinaire?
Oui, absolument.
Alors lequel? Parce que vert plus vert égale vert.
Eh ben oui, mais si on renforce le vert, on va renforcer le vert et on va enrober le haricot vert d'une pellicule de verre. Donc ça, ce jus va enrichir l'épinard, le haricot vert. Ah non, c'est très intéressant, ça, au contraire. C'est très intéressant.
Et le haricot vert, comme outil culinaire, enfin, outil gustatif, ingrédient,
C'est pas une chose, le haricot vert, c'est un produit dur à travailler. On peut pas trop le transformer, le haricot vert. On est un peu obligé de le serrer dans son haricot vert. Un haricot vert.
Ouais. Et son goût, tu l'associerais avec quoi, intuitivement?
Avec du foie gras, avec des oignons crus, avec... C'est un grand classique, d'ailleurs, en l'occurrence, hein, ça.
Oui, tu jouerais à ça?
Bien sûr.
Et pourquoi, si c'est un grand classique, alors que tu détournes toujours les recettes classiques, tu prendrais cette association?
Par exemple, je fais une ce qu'on va appeler, je dirais, une chantilly de foie gras hervétis. Donc, dessus.
Il faut que t'expliques, parce que les gens savent pas ce que c'est.
Le bouquet d'haricots verts.
Chantilly de foie gras, foie gras chantilly, c'est, on prend un bouillon, de canard. Oui. C'est foie ou canard?
Oui, ou du canard ou de la volaille.
Peu importe. Donc,
même de l'eau, hein, si on veut. De l'eau avec un peu de porto.
On y met le foie gras qu'on passe au tamis. Oui. On fait chauffer dans une casserole pour faire une sorte de béarnaise de foie gras.
Non. Je peux expliquer.
Vas-y, alors.
Non. Tu prends un bouillon.
Oui.
Tu mets ton foie gras en petit tête dedans et tu fouettes pour que ça se dit, ça se dissout.
Que la graisse s'émulsionne dans le bouillon.
Et moi, je dirais plutôt, pour que les gens aient une image précise, ça ressemble plutôt à une crème anglaise. Et donc, on a ce foie gras qui est devenu, qu'on a passé au tamis, ou qu'on a mixé, ou qu'on a écrasé, on a mélangé avec ce bouillon, et on obtient une espèce de jus qui gagne
une émulsion
plutôt une crème.
Voilà. Une émulsion de foie gras.
Et ensuite, ce jus, cette crème un peu, on a un peu tiède, on la met dans un cul de poule, qui est lui-même inséré dans la glace, donc très glacé, et on commence à fouetter. Et, miracle des miracles, on s'aperçoit que ça va prendre forme, que ça va gonfler, et surtout ça va prendre, et on aura une masse qui va être compacte.
Donc on obtient un foie gras chantilly, comme avec de la crème, on fait une crème chantilly.
Voilà, absolument.
Alors avec ça, qu'est-ce que t'en fais, alors?
Eh bien, on va le servir, on va le poser dans une assiette, comme ça. On peut mettre quelques petites guichettes de pain grillé très très fines, et dessus, on met un autre joli bouquet d'haricots verts, légèrement assaisonné, pas de citron, pour pas qu'il jaunisse. Éventuellement, on met une petite goutte d'huile d'olive si on veut, et on le pose dessus, voilà. Et on peut mettre quelques petites gouttes de balsamique, de vinaigre un petit peu pointu, et on a une entrée très simple.
Et les oignons,
on les émince à cru, tout bien cru, et le côté frais et craquant va enrichir le duo. Foie gras
et
couvert.
Et est-ce que l'idée dans cette composition, c'est d'avoir pris quelque chose de classique et de l'avoir lui donné une vie moderne?
Absolument.
C'est ça.
Tout à fait. Et moi, j'aime beaucoup ça.
Donc donner de la vie moderne à des classiques qu'on connaît, mais les transformer, parce qu'on va pas cuisiner comme il y a un siècle.
Absolument.
Très bien. Bon, ben Pierre, je te donne rendez-vous alors lundi prochain, où on parlera des sauces.
Traité culinaire et savant par Hervé Tisse. Réalisation, Point aux sourcils.